Chapitre 15. Instructions diverses. Quand vous serez entrés. Les paroles qui ouvrent ce chapitre sont particulièrement frappantes quand on les compare avec le contenu du chapitre précédent, où tout paraît ténébreux et sans espoir. Là, l'Éternel leur avait dit : vos cadavres tomberont dans ce désert. Si vous entrez dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main pour vous y faire habiter. Versets 29 et 30. Le chapitre 15 poursuit la narration comme si rien n'était arrivé. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : parle aux fils d'Israël et dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation que je vous donne, etc. C'est un des passages les plus remarquables de ce livre. La sentence solennelle « vous n'entrerez pas dans le pays » nous enseigne la complète indignité de l'homme et les paroles « quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation que je vous donne » nous montrent le salut de Dieu. D'une part, nous apprenons la chute de l'homme, de l'autre, la fidélité de Dieu. Ceci se retrouve dans tout le volume inspiré du commencement à la fin. L'homme tombe, mais Dieu est fidèle. L'homme fait toujours faillite, mais Dieu manifeste ses ressources. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Luc 18, verset 27. Souvenons-nous de l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden, de celle de Noé après le déluge, de celle d'Israël dans le désert, dans le pays de Canaan. Plus près de nous, pensons à la chute de l'Église professante comme corps responsable sur la terre. L'homme n'a-t-il pas manqué toujours et en toute chose ? Hélas, oui. C'est un côté du tableau, le côté sombre et humiliant. Mais, béni soit Dieu, il y a aussi le côté lumineux et encourageant. Christ est entré sur la scène et en lui tout est infailliblement assuré, pour la gloire de Dieu et la bénédiction éternelle de l'homme. Toutes choses sont établies sur une base nouvelle en Christ. Il est le chef de la nouvelle création, héritier de toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob au sujet du pays, héritier de toutes les promesses faites à David concernant le trône. L'Empire sera posé sur son épaule. Il est prophète, sacrificateur et roi. En Christ, tout ce qu'Adam a perdu est restauré. Et il apporte beaucoup plus que tout ce qu'Adam a jamais possédé. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en lui. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. 2 Corinthiens 1, versets 19 à 22. Ainsi, les premières lignes du chapitre 15 des Nombres doivent être lues à la clarté de tout le livre de Dieu. Elles évoquent l'histoire entière des voies de Dieu envers l'homme. Les fils d'Israël avaient perdu tout droit au pays. Ce qu'ils méritaient, c'était que leurs cadavres tombent dans le désert. Néanmoins, la grâce de Dieu est telle qu'il pouvait leur parler de leur entrée dans le pays et leur enseigner ce qu'ils auraient à y faire. Dieu s'élève au-dessus de la chute et du péché de l'homme. Il est impossible qu'une seule promesse de Dieu n'ait pas son accomplissement. Se pouvait-il que la conduite d'Israël dans le désert annule le dessein éternel de Dieu ? Qu'elle empêche l'exécution des promesses sans conditions faites au Père ? Impossible. Si donc la génération qui était sortie d'Égypte refusait d'aller en Canaan, l'Éternel susciterait une nouvelle génération à Abraham pour accomplir sa promesse. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, verset 29. C'est là qu'est le repos divin de la foi dans tous les temps, le port sûr et calme de l'âme au milieu du naufrage de tous les projets et de toutes les entreprises des hommes. Tout tombe en pièces entre les mains de l'homme, mais Dieu en Christ demeure. Dieu a ressuscité Christ et l'a élevé dans la gloire, et tous ceux qui croient en lui sont placés sur une base entièrement nouvelle. ils sont liés à un chef exalté et glorieux et pour toujours. Cette merveilleuse association ne pourra jamais être dissoute. Tout est assis sur un fondement inébranlable. Lecteur, comprenez-vous l'application de tout cela à vous-même? Avez-vous découvert à la lumière de la présence de Dieu que vous avez véritablement failli, que vous avez fait naufrage en toute chose, que vous n'avez pas une seule excuse à produire? Êtes-vous venu à Jésus comme un pécheur perdu, et avez-vous trouvé en lui la rédemption, la paix et le pardon? Un tableau d'Israël restauré. Au début de ce chapitre 15, nous avons les vœux, les offrandes élevées et le vin des libations, le tout fondé sur la grâce souveraine qui brille dès le premier verset. C'est un magnifique symbole de l'état futur d'Israël. Cela nous rappelle les visions merveilleuses qui terminent le livre du prophète Ézéchiel. L'incrédulité, les murmures, la rébellion sont oubliés. Sur le fondement de ses conseils éternels, Dieu regarde en avant au temps où son peuple lui présentera une offrande en justice et lui rendra ses vœux, au temps où les joies de son royaume rempliront pour jamais leur cœur. Ézéchiel 43, versets 3 à 12. Observons un trait bien frappant de ce chapitre, la place qu'occupe l'étranger. Et si un étranger séjourne parmi vous, ou si quelqu'un est au milieu de vous en vos générations, et qu'il offre un sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel, comme vous faites, ainsi il fera. Pour ce qui est de la congrégation, il y aura un même statut pour vous et pour l'étranger en séjour, un statut perpétuel en vos générations, comme vous, ainsi sera l'étranger devant l'Éternel. Il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Versets 14 à 16. Quelle place pour l'étranger! Quelle leçon pour Israël! L'étranger est mis au même rang qu'Israël. Comme vous, ainsi sera l'étranger. Et encore ceci, devant l'Éternel. En Exode 12, verset 48, nous lisons « Et si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire. » Or, dans les Nombres, il n'est pas fait allusion à la circoncision. Pourquoi? Israël avait failli à toutes ses obligations. La génération rebelle devait être mise de côté et retranchée. Mais le dessein éternel de Dieu en grâce demeure, et toutes ses promesses doivent être réalisées. Tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 26. Il possédera le pays. Il offrira ses offrandes et savourera la joie du royaume. Sur quel principe? Celui de la grâce souveraine et non celui de la loi. Or, c'est sur un principe exactement semblable que l'étranger est introduit. Comme vous, ainsi sera l'étranger devant l'Éternel. Le Juif qui aura reçu dans son âme la leçon salutaire des chapitres 13 et 14 des Nombres ne cherchera plus à repousser l'étranger. Il sera prêt à s'avouer lui-même débiteur de la grâce seule, reconnaissant que la même miséricorde qui lui a été accordée peut l'être aussi à l'étranger. Alors, il se réjouira d'aller en sa compagnie boire à la source du salut, ouverte par la grâce souveraine du Dieu de Jacob. L'enseignement de cette partie de notre livre nous rappelle l'admirable plan des dispensations développées en Romains 9 à 11, et particulièrement cette magnifique conclusion « Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi, les nations, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, c'est-à-dire à la miséricorde offerte aux gentils, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde, c'est-à-dire qu'ils viennent sur le terrain de la miséricorde comme l'étranger. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables! Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Romains 11, versets 29 à 36. Péché par erreur et péché par fierté. Dans les versets 22 à 31, nous avons des instructions sur les péchés par erreur et les péchés par fierté, distinction très sérieuse et importante. Il est amplement pourvu au premier, selon la bonté et la miséricorde de Dieu. La mort de Christ est présentée dans cette portion du chapitre sous ses deux grands aspects, l'holocauste et le sacrifice pour le péché, c'est-à-dire son aspect quant à Dieu et son aspect quant à nous. Ensuite, par le type de l'offrande de gâteau avec sa libation, nous avons tout le prix, tout le parfum de la vie de Christ et de son service parfait comme homme dans ce monde. Dans l'holocauste, nous voyons l'expiation accomplie selon la mesure du dévouement de Christ à Dieu et du plaisir que Dieu y prend. Dans l'offrande pour le péché, c'est l'expiation accomplie selon la mesure des besoins du pécheur et de la nature odieuse du péché aux yeux de Dieu. Prises ensemble, les deux offrandes présentent la mort expiatoire de Christ dans toute sa plénitude. Dans l'offrande de gâteau, nous avons la vie parfaite de Christ et la réalité de sa nature humaine, manifestée dans tous les détails de sa marche et de son service en ce monde. La libation est le type de son complet abandon à Dieu. Quant aux riches et merveilleuses instructions qui ressortent des différentes catégories de sacrifices présentées dans ce passage, nous renvoyons le lecteur à nos notes sur le livre du Lévitique. Les droits de Dieu exigent que l'on prenne connaissance des péchés commis par erreur. Nous pourrions peut-être penser que l'on peut négliger de tels péchés, mais Dieu ne pense pas ainsi. Sa sainteté ne doit pas être rabaissée à la mesure de notre intelligence. La grâce pourvoit aux péchés commis par erreur, mais la sainteté demande que de tels péchés soient jugés et confessés. Il est affligeant d'entendre des chrétiens se satisfaire de l'ignorance ou s'en servir pour justifier l'infidélité et l'erreur. On peut se poser la question : pourquoi sommes-nous ignorants de certains points de conduite ou des droits que Christ a sur nous ? Quand Dieu nous a parlé, avons-nous le droit d'alléguer l'ignorance ? Cela détruit-il notre responsabilité ? Avons-nous déployé toute notre énergie, employé tous les moyens valables, fait tous les efforts qu'il nous était possible de faire pour connaître la pensée et la volonté de Dieu? Les droits de la vérité et de la sainteté exigent tout cela de nous, et ne soyons pas satisfaits de quelque chose de moins. Lorsqu'il s'agit de nos propres intérêts, de notre nom, de notre réputation, de nos biens, nous n'alléguons pas longtemps notre ignorance. Si des informations sont nécessaires, nous les obtenons. Nous faisons tout notre possible pour connaître tous les détails. Nous pesons le pour et le contre, afin d'avoir un jugement sain des choses. N'en est-il pas ainsi? Alors pourquoi mettrions-nous en avant l'ignorance lorsque les droits de Christ sont en question? Cela ne prouve-t-il pas que, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous sommes empressés, zélés, énergiques, actifs, tandis que lorsqu'il s'agit de Christ, nous sommes indifférents, indolents, nonchalants, passifs? Que l'Esprit de Dieu nous donne d'avoir plus à cœur les choses qui concernent Christ. Que le moi et ses intérêts diminuent, et que Christ et ses intérêts grandissent chaque jour dans notre estime. Sentons davantage notre responsabilité d'examiner diligemment toutes les questions où la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est intéressée. Nous croyons que très souvent nous prétextons l'ignorance, tandis que c'est de l'indifférence qu'il faudrait parler. Cela est fort triste. Ne nous mettons pas à l'abri de l'ignorance lorsque nous avons à notre portée les enseignements divins les plus détaillés et qu'il nous manque seulement l'énergie pour en profiter. Il nous est impossible de fermer les yeux sur le fait que les droits de Christ, la valeur de la vérité, l'autorité des Saintes Écritures sont de plus en plus mis de côté. Nous approchons d'un moment où il y aura de la tolérance pour tout, excepté pour la vérité de Dieu. Il nous convient, par conséquent, de bien veiller à ce que la parole de Dieu ait sa vraie place dans nos cœurs et que notre conscience soit en toute chose gouvernée par son autorité. Une conscience délicate est un trésor des plus précieux à porter continuellement avec nous. J'entends une conscience qui réponde toujours avec vérité à l'action de la parole de Dieu, qui se soumette sans contester à ses simples directions. Tant que la conscience est sensible à l'action de l'Écriture appliquée par le Saint-Esprit, il y a dans notre vie une puissance régulatrice sûre et certaine. Mais si elle devient indolente, endurcie ou pervertie, si elle ne s'incline pas sans discussion devant la parole de Dieu, alors il y a fort peu d'espoir. On tombe dans un cas semblable à celui qui nous est rapporté dans notre chapitre. Mais l'âme qui aura péché par fierté, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, elle a outragé l'Éternel. Cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, car elle a méprisé la parole de l'Éternel, et elle a enfreint son commandement. Cette âme sera certainement retranchée. Son iniquité est sur elle.
Versets 30 et 31.
Dans ce monde, on estime comme un acte viril d'affirmer sa volonté. Mais l'Écriture nous enseigne tout le contraire. Les deux grands éléments de la perfection humaine sont la dépendance et l'obéissance. Quand nous portons nos regards sur celui qui fut l'homme parfait, nous voyons ces deux grands traits distinctifs pleinement manifestés d'un bout à l'autre de sa vie. Ce bien-aimé n'est jamais sorti un seul instant de la position de dépendance parfaite et d'obéissance absolue. Prenez par exemple la scène de la tentation. La réponse qu'il fait invariablement au tentateur est « Il est écrit ». Aucun raisonnement, aucun argument, aucune question. Il vivait de la parole de Dieu. Il vainquit Satan en retenant ferme la seule vraie position d'un homme, dépendance et obéissance. Tel est notre modèle. Ayant la vie de Christ, nous sommes appelés à vivre dans une dépendance et une obéissance habituelle. C'est là marcher par l'Esprit. C'est le sûr et heureux sentier du chrétien. Nous voudrions rappeler spécialement aux jeunes lecteurs chrétiens que la vraie sauvegarde contre les péchés commis par erreur, c'est l'étude de la parole, et que la vraie sauvegarde contre les péchés commis par fierté, c'est la soumission à la parole. Nous avons tous besoin de nous souvenir de ces choses, mais particulièrement nos frères plus jeunes. Il y a une forte tendance parmi les jeunes chrétiens à entrer dans le courant de ce présent siècle et à s'imprégner de son esprit. De là, l'indépendance, la propre volonté, l'impatience contre la surveillance, la désobéissance aux parents, l'obstination, l'arrogance, les manières prétentieuses, la présomption, l'affectation de se croire plus sage que ceux qui sont plus âgés, toutes ces choses sont odieuses au regard de Dieu et sont entièrement opposées à l'esprit du christianisme. Nous voudrions inviter vivement et affectueusement nos jeunes amis à se garder de ces choses en recherchant l'humilité. Qu'ils se souviennent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Profanation du sabbat. Et comme les fils d'Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Et on le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été clairement indiqué. Et l'Éternel dit à Moïse, « L'homme sera mis à mort. Que toute l'assemblée le lapide avec des pierres hors du camp. » Et toute l'assemblée le mena hors du camp, et ils le lapidèrent avec des pierres, et il mourut comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Versets 32 à 36. C'était sûrement un péché commis par fierté. C'était désobéir résolument à un commandement très clair et très positif de Dieu. C'est là ce qui caractérise le péché commis par fierté et le rend absolument inexcusable. On ne peut pas alléguer l'ignorance en face d'un commandement divin. Mais, demandera-t-on peut-être, pourquoi ont-ils mis cet homme sous garde ? Parce que, bien que le commandement ait été explicite, la violation n'en avait pas été prévue et aucune peine n'avait encore été prononcée. C'est comme si l'Éternel ne s'était pas attendu à une folie telle que la profanation de son repos de la part de l'homme. Nous n'avons pas besoin de dire que Dieu connaît la fin des choses dès leur commencement. Mais, dans cette affaire, il avait laissé à dessein le cas indécis jusqu'à ce qu'une occasion se présente. Hélas, elle arriva bientôt. Car l'homme est capable de tout. Il n'a pas à cœur le repos de Dieu.
Allumer un feu un jour de sabbat était une infraction positive à la loi. Exode 35, verset 3. Un tel acte manifestait un complet éloignement de la pensée du législateur, puisqu'il introduisait dans le jour du repos ce qui était le symbole le plus frappant du jugement. Il ne restait donc plus qu'à appliquer le jugement à celui qui avait violé le sabbat, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Une houppe et un cordon de bleu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent, en leur génération, une houppe au coin de leurs vêtements, et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Et elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Versets 37 à 41. Le Dieu d'Israël voulait que son peuple se souvienne continuellement de ses commandements. C'était le but de ce cordon de bleu, de ce mémorial céleste attaché aux pans de leurs vêtements. Ainsi, la parole de Dieu pouvait toujours être remise en mémoire dans leurs pensées et dans leur cœur. Toutes les fois qu'un Israélite portait les yeux sur ce cordon de bleu, il devait penser à l'Éternel et se souvenir de son devoir d'obéissance à tous ses statuts. Quand nous nous reportons au verset 5 du chapitre 23 de Matthieu, nous voyons le triste usage que les Juifs avaient fait de cette institution divine. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements. Ainsi, la chose même qui avait été établie pour les amener à se souvenir de l'Éternel et à montrer l'obéissance à sa parole, ils s'en servirent pour se glorifier eux-mêmes dans leur orgueil religieux. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Pensons-y sérieusement. Gardons-nous de changer le mémorial céleste en un insigne terrestre et de tirer de ce qui devait nous conduire à une humble obéissance une occasion de nous glorifier nous-mêmes.